C'est bon, on est bon. Bonsoir à tous. Merci d'être venus du coup de ne pas être en vacances cette semaine et puis de venir parler des municipales. Alors donc notre sujet ce soir, c'est l'échelon municipal peut-il redynamiser la vie politique? De fait, on est parti quand même de ces sondages qui montrent une affection des Français pour l'échelon municipal. Donc dans les derniers sondages que j'ai vu et qu'on va commenter ce soir, 69% des Français interrogés déclarent faire confiance à leur maire. C'est le chiffre le plus élevé parmi tous les élus, loin devant les députés, qui ont seulement 42% de confiance. Sur quels critères est-ce que les Français donnent ou non leur confiance? Bon, c'est assez logique, là. Ils attendent de l'honnêteté, 61%, la capacité à tenir ses engagements, 50%, et la probité dans la gestion des affaires communales. Et or, là, c'est quand même, les chiffres sont quand même impressionnants, 73% des citoyens interrogés sont satisfaits de l'action de leur municipalité, et même 78% dans les communes de moins de 1000 habitants. Et dans l'ensemble, donc les personnes interrogées reconnaissent à leur maire des réalisations concrètes, à 71%, et une vision pour l'avenir, même chiffre, notamment en matière d'aménagement, de services publics ou d'attractivité locale. Donc des chiffres qui font rêver, mais bon, on va en discuter après. Donc c'était une enquête menée par le CEVIPOF pour l'Association des maires de France, et c'est qui a été réalisée en juin dernier. Donc avant les élections municipales, qui auront lieu, je le rappelle, les 15 et 22 mars prochains. Alors, donc le thème de notre soirée, pourquoi est-ce que l'échelon local, et notamment municipal, est à la fois aussi apprécié et attendu par les Français que nous sommes? Pourquoi les maires réchappent-ils dans l'ensemble à la défiance généralisée? Est-ce vraiment parce qu'ils sont plus honnêtes que les autres, ou font moins de promesses intenables? Est-ce parce qu'ils ont davantage les moyens de leur politique? Est-ce qu'ils sont moins que d'autres élus préoccupés de politique politicienne, entre guillemets, et plus proches de leurs administrés? Ou est-ce seulement parce que nous sommes à ce point déprimés par la vie politique nationale que nous reporterions par défaut toute notre affection sur nos maires? Donc ce sont ces questions que nous allons aborder ce soir, en nous demandant d'abord ce qui marche vraiment à l'échelon local et pourquoi. Une précision importante. Nous sommes entrés, il y a quelques mois déjà, ça ne vous a pas échappé, en période préélectorale, et même depuis hier, dans la période de campagne officielle, qui a lieu donc 15 jours avant les élections. Pendant cette période, la propagande électorale, c'est l'expression consacrée, est encadrée pour garantir l'égalité entre les candidats. Or, nous accueillons ce soir, sur ce plateau, deux élus en campagne pour leur réélection. Et bien sûr, nous nous réjouissons de leur engagement citoyen. Et le but de notre soirée n'est évidemment pas d'appeler au vote en leur faveur. Donc nous avons choisi un thème large sur lequel ils vont pouvoir apporter leurs éclairages avec tout le détachement possible. Et en tout cas, nous les remercions vivement d'avoir pris le temps d'être parmi nous pendant cette période où leur temps est particulièrement précieux. Voilà pour le petit message important dans cette période. Donc ce soir, nous accueillons quatre intervenants. Alors je vais commencer par vous, Sylvie Sérac. Donc vous êtes adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris depuis 2008, chargée des solidarités, du lien intergénérationnel et des quartiers politiques de la ville. Et vous êtes aussi en charge du lien avec les cultes dans votre arrondissement, avez-vous expliqué. Et vous avez à ce titre fait la connaissance récemment de la communauté de la rue Blomet, la jésuitière, comme on dit, je crois, de la compagnie, donc celle qui accueille les étudiants les plus jeunes. Je continue avec vous. Alexis Boja, vous êtes consultant au sein du cabinet de conseil en stratégie Eurogroup, qui accompagne notamment des acteurs du secteur public. Alors, j'ai vu que dans sa présentation, votre cabinet dit agir pour une action publique plus performante. Donc, vous nous expliquerez comment vous y parvenez, et notamment quand ces politiques publiques implique la participation de municipalités. Alors, Nicolas Samsoun, pour bien prononcer, vous êtes maire de Massy depuis 2017, ville dans laquelle vous êtes né et dont vous avez été adjoint au maire pendant 22 ans. Donc, votre regard sera intéressant à ce titre parce que vous avez une longue expérience et puis aussi parce que j'ai vu que vous avez connu, je ne savais pas trop comment dire, mais tous les étages de l'action publique, donc à la fois dans une administration locale, dans le département de la Somme, dans un cabinet ministériel, celui du ministre de l'Équipement et des Transports, et à la direction d'un établissement public, donc c'était celui qui gère l'aménagement de la vallée de la Seine. Voilà, donc ça fait différents points de vue, une longue expérience. Et puis je mentionne le livre que vous avez publié l'an dernier chez Grasset, « D'excellents Français, comment faire de l'immigration une chance ». Voilà, et donc enfin Pierre-Henri Bonneau, vous êtes chercheur au CEVIPOF, économètre spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques. Et donc c'est avec vous que nous allons commencer, puisque vous avez mené différentes études pour documenter justement l'attachement des Français à leur mère et également le profil des mères. Voilà.
Donc, merci pour l'invitation. Et comme vous l'avez dit, voilà, moi je suis un économètre, donc toute la journée je travaille sur les chiffres. Et ce soir, je vais pas changer, je vais vous présenter plein de chiffres. Peut-être sûrement trop, mais il faut savoir que c'est la première fois que je les présente, parce que on a eu les données que très récemment, donc vous allez avoir un peu la primeur de toutes les grandes tendances que l'on peut voir dans les élections municipales. Et je pense qu'il est important, avant de commencer, de dire comment, c'est quoi la mécanique maintenant des élections municipales en 2026. Donc c'est une élection avec un scrutin de liste pour toutes les communes. C'est quelque chose de nouveau. Donc la liste qui arrive en tête, soit au premier tour, avec plus de 50% des voix exprimées, reçoit automatiquement la moitié des sièges. Et ensuite, on distribue sur toutes les autres listes à la proportionnelle avec la liste qui est arrivée en tête. Donc, on est sûr que la liste qui arrive en tête aura la majorité pour gouverner. Mais le législateur, il fait toujours des choses, il aime bien changer les choses. On va voter pour Paris, Marseille et Lyon d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que maintenant, on va voter pour son maire, ce qu'on appelle un maire de secteur, qui correspond aux arrondissements, mais pas à Marseille, ou le maire de la ville en général. Et la petite différence ici, c'est que la prime majoritaire, qui est de 50% pour les autres villes, ne va être plus que de 25%. Donc la liste qui arrive en tête n'aura que 25% d'assurés, et ensuite on pourra, à la proportionnelle, c'est pour ça qu'on appelle un vote à la proportionnelle, distribuer le reste des sièges. Et ça, ça pose un problème parce que il y a la possibilité assez forte qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour gouverner ces villes.
Uniquement dans ces trois grandes villes.
Uniquement pour Paris, Marseille et Lyon au niveau de la ville, pas des arrondissements. La disparition du scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec panachage, c'était quoi? C'est que pour les villes de les communes de moins de 1000 habitants, vous aviez une liste et vous aviez la possibilité de barrer un nom et de mettre le nom d'une autre liste. Et d'ailleurs, même avant 2001, 2008 et avant, on avait la possibilité de mettre un nom qui n'était même pas déclaré candidat. Et il faut savoir que dans beaucoup de communes, le curé était souvent élu conseiller municipal à ses dépens. Libre à lui d'accepter ou non.
Parce qu'il ne se présentait pas, mais parce que les gens avaient mis son nom?
Les gens mettaient son nom, oui. Régulièrement, le curé était élu dans ces municipalités. Mais à partir de 2008, il y a eu l'obligation de candidature. Et donc, tout ça s'est arrêté. Et d'ailleurs, c'est dans les données du ministère, vous voyez, il y a une ligne pour les professions des élus, clergé. Il y en a encore. Et alors, chaque candidat recevait les voix à titre individuel. Le problème, c'est que les gens adoraient ce scrutin. Et dans ces petites communes où il n'y avait pas de compétition, c'était une manière aussi d'aller dire et de les forcer à y aller, à aller voter parce que il y avait un voisin qui n'aimait pas et ils adoraient barrer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a beaucoup de maires qui disaient, je ne mets jamais un stylo dans les bureaux de vote, pour éviter ce genre de choses. Le travail académique, quand on regarde là-dessus, c'est que le passage, donc moins 2000, plus 2000, d'abord il y a une diminution de la compétition. C'est plus difficile de produire une liste. À l'époque, à moins 2000, vous pouviez faire les listes autant de candidats qu'il y avait de sièges à pourvoir. Donc, vous pouviez avoir 11 conseillers municipaux et une liste avec 6 candidats. C'était tout à fait possible. Maintenant, vous avez juste le droit d'avoir 2 candidats en moins par rapport au nombre de sièges à pourvoir. C'est beaucoup plus difficile. Et il faut rajouter à cela quelque chose qui est très important. Dans n'importe quelle commune, il faut la parité. Un homme, une femme. Et lorsque vous écoutez les maires, c'était très difficile. Donc ce changement, il y a 2 choses. Un, ça va faire augmenter l'abstention, puisque les gens ne pourront plus barrer la chose. Et ça va surtout aussi faire beaucoup augmenter les bulletins blancs et les bulletins nuls. De 2 choses. Un, par manque d'informations. Mais 2, lorsqu'on regarde la presse quotidienne régionale, vous avez beaucoup de gens qui vous disent « On me l'a imposé de Paris, moi je continuerai à barrer un nom. »
Et en fait, le bulletin donc sera nul.
Sera nul.
Si un nom est barré.
Voilà. On oublie souvent, mais les municipales en France, c'est un acte démocratique extraordinaire. Ça n'existe nulle part ailleurs. 35 000 communes, il faut savoir que la France possède la moitié des communes en d'Europe. Il y a 70 000 communes en Europe, il y en a 35 000 en France. 48,5 millions d'inscrits, ça c'est normal. Plus de 500 000 sièges à pourvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 900 000 candidats, ça c'est pour 2026. 1,8 candidats par siège à pouvoir. Un candidat pour 54 inscrits. C'est-à-dire que quand vous avez 50 personnes, il y en a un qui va être un candidat, un inscrit. Malgré la loi, on est toujours pas encore à la perfection pour la parité. 49% des candidates. Pourquoi ? Parce que les listes sont impaires et la parité n'impose pas le premier. Donc le premier sera un homme, le dernier sera un homme. Le premier est une femme, la dernière sera une femme. Ce qui fait cette petite différence. Mais quand la difficulté de cela, c'est que les têtes de liste, lorsque vous regardez l'évolution des têtes de liste, vous voyez que seulement une liste sur 4 est conduite par une femme. Donc, la loi impose la parité, mais on est encore loin de l'égalité.
Ça progresse quand même.
Ça progresse, oui. Chaque année, ça progresse, mais 1 sur 4, ça reste encore...
Perfectible.
Par tranche de population, je vais vous présenter quelques graphiques, je vais essayer d'aller assez vite par tranche de population, parce que vous vous doutez bien, on ne vote pas de la même manière dans une petite commune de 500 habitants et dans des grandes communes. Donc là, on voit le pourcentage de têtes de liste par tranche de population. Voilà, donc on voit que chaque année, ça augmente dans toutes les tranches, donc même les plus petites. Un petit mot sur l'abstention au municipal. Avec les présidentielles, c'est celle qui résistait le mieux à la tendance générale de la Ve République. Mais je suis très impatient, moi, de voir ces élections, parce qu'il y a quelque chose... Si vous regardez bien ici, il y a un tournant depuis 4 élections européennes. Depuis 4 élections européennes, l'abstention baisse. La dernière régionale avant le Covid, ça baissait. Les dernières législatives, on est revenu exactement au même niveau que 97. J'aimerais bien savoir si on est dans un tournant ou au contraire si la dynamique de la Ve République va continuer. Donc ça, c'est une question. La compétition, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc 2026 ressemblera, pour les moins 2000, 2026 ressemblera grosso modo à 2020. Il n'y a pas eu de gros changements avec moins ou plus.
Qu'est-ce que vous appelez la compétition ?
La compétition, c'est le nombre de candidats par siège à pourvoir. Donc on est à peu près, par exemple, pour 500 en moyenne, on va être à 1,3 candidats par siège à pourvoir. Et vous voyez que plus la population augmente, plus la compétition augmente. 2014 était une élection qui était plus compétitive. Et ici, vous voyez aussi que quand on change la taille du conseil municipal. Juste après, vous avez un choc de compétition parce que c'est plus dur de trouver une équipe de 11 plutôt qu'une équipe de 7. Donc il y a des petits chocs comme ça. Plus intéressant maintenant pour le scrutin de liste, les plus de 1000. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est ce qu'on parlait, il y avait vraiment une inflation de listes en 2020 pour les très grandes villes. Mais si l'on regarde 2026, donc on a eu les données il y a 2 jours, ça fait vraiment 2 jours que je travaille dessus pour pouvoir les mettre, eh ben on est redescendu. Et il y a plutôt une tendance, je dirais, à une diminution du nombre moyen de listes, de la compétition, même dans les grandes villes. Donc 2020, ça a été l'explosion. 2014, dans l'ensemble des villes, c'était la plus compétitive. Mais là, en 2026, on est en train de...
Vous avez un début d'explication pour cette tendance?
Je vous le dirai à la fin.
La même question,
et okay. Monsieur le maire dira s'il est d'accord. D'autre manière de voir comment se passe la compétition, c'est combien de communes sont pourvues pour le premier tour. Parce que nous, on est tous à la télé, on dit, voilà, il va y avoir un deuxième tour, on est dans une grande ville et tout. Mais il faut savoir que 82% de la population ou 86% de la population ne connaîtra pas de second tour. Les seconds tours, c'est quelque chose qui est vraiment dans les grandes villes. On a toujours l'impression, on est complètement, c'est Paris, Lyon, Marseille, et puis quelques Bordeaux, quelques grandes villes comme ça, ou quelques personnalités, mais la majorité des Français ne connaîtront pas, donc 86% des communes ne connaîtront pas de second tour, et ça correspond à 62% de la population. Donc on voit qu'il y a une diminution de la compétition, et il y a une fragmentation des seconds tours. De plus en plus, vous allez avoir des triangulaires et des quadrangulaires. Donc vous voyez, en 2021, on avait 40% de triangulaires. En 2020, en 2001, on en avait 44. En 2020, on en a 55. Et on a 15% de quadrangulaires ou plus.
Suspense pour cette année.
Suspense pour cette année, oui. Mais comme on a moins de listes candidates, ça va continuer. Une carte, parce que j'aime bien faire des cartes. Là, c'est le nombre de listes par commune. Ben, qu'est-ce qu'on voit? Oui, ça suit la densité de population, mais pas que. Par exemple, vous voyez, alors, j'ai quelque chose, moi, qui est très important pour moi. Je veux faire tous les territoires de France. Et tous les territoires, ça veut dire tout là où il y a des communes. Et les seuls territoires où il n'y a pas de communes, c'est Wallis et Futuna et Saint-Martin et Saint-Barth. Donc, on voit que dans nos outre-mer, c'est plutôt il y a beaucoup de compétition, puisque plus c'est bleu, plus il y a de listes, et le pourtour méditerranéen, et bien sûr les grandes villes. Voilà, candidature et l'élection et réélection. Ben, qu'est-ce qu'on voit? Le pourcentage de maires sortants qui se représentent, ça diminue chaque année. On est passé de, en 2008, 70% des maires sortants se représentaient, à 2026, 63%. Donc il y a une diminution de l'attractivité. Je vais donner une... Et il y a quelque chose qui est très particulier pour cette élection, c'est... Alors déjà, vous voyez que globalement, les femmes se représentent moins que les hommes. C'est une tendance. Voilà, par exemple, en 2020, 69% des hommes se sont représentés, alors que seulement 65% des femmes. Par contre, en 2026, il y a quelque chose qui est très curieux. 65% des hommes se sont représentés, seulement 54% des femmes. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas représentées pour cette élection, celle qui est à venir. Et lorsque l'on regarde, c'est exactement, là c'est détaillé par taille de population, c'est dans les petites communes. Les femmes... Avec le changement de scrutin, elles devaient monter des listes. Ça a été plus difficile que pour les hommes. Elles ont moins accepté ce challenge de monter une liste paritaire complète que les hommes. Puisqu'on voit, jamais on a eu un taux de sortants qui se représentent aussi bas ici. C'est toujours intéressant de voir le pourcentage de maires sortants qui se représentent et qui sont battus. Et on est à peu près à entre 14 et 15% des maires qui se représentent sont battus. Donc c'est très faible. On voit que ça augmente avec la taille de la population et que 2020 a été une élection vraiment où la prime au sortant était énorme. Pour résumer, 3 Français sur 5 ne changent pas de maire lors des élections municipales. Donc il y a quand même une énorme stabilité. Les maires battus 14-15 et les femmes moins souvent candidates à leur succession. Et quand elles sont candidates à leur succession, il y a une régularité statistique, elles feront face à plus de candidats, de candidatures face à elles. Statistiquement, quand une sortante se représente, elle aura 0,3, 0,4, 0,5% de chances d'avoir une liste en plus que si c'était un sortant. Quelque chose qui est aussi intéressant, il faut faire un peu de politique quand même. Donc la politique, pour les municipales, c'est plus de 3500 habitants. Donc ici, vous allez en 2008, vous voyez qu'il y a une égalité de villes gagnées par la gauche et par la droite. 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été le grand dégagisme. C'était un nom qu'on a utilisé à l'époque et vous voyez que les villes de droite, la droite a gagné 1600 villes et la gauche seulement 1100. Et 2020, toujours pas d'équilibre. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est, à votre avis, les villes sont gouvernées par la gauche ou la droite? Systématiquement, on me répond, la gauche, monsieur. C'est connu, les villes sont à gauche. Non, les grandes villes sont à gauche, les très grandes villes sont à gauche. Mais la majorité des villes sont gouvernées par des maires de droite. Et toujours le truc. Et que ça soit en taille, par exemple, ici, vous avez en 2008, 21 millions de personnes étaient gouvernées par des villes de gauche, 22 millions. C'est 17 millions en 2020 et vous voyez 19 millions, 20 millions qui sont gouvernés par des maires de droite. Et ici, vous avez la distribution. Il n'y a que dans la dernière tranche de population que la gauche, donc les villes de plus de 100 000 habitants, que la gauche surpasse la droite. Mais sinon, dans tout le reste, la droite surpasse.
Et donc, ça s'est inversé en fait depuis 2008.
2014.
Depuis 2014, ah oui.
Okay. Le grand dégagisme de 2014. Et on a toujours du mal à revenir à égalité. Le ou la maire, donc le pourcentage de femmes élues, on est passé de 12% à 20%. L'âge moyen des maires, 54 ans, 59 ans, vous voyez que ça augmente à chaque élection. Donc voici, ça c'est ma première explication, c'est que les maires, ils deviennent de plus en plus âgés.
Comme on les réélit, forcément.
Oui, on les réélit, mais au bout d'un moment, ils peuvent plus. Les femmes mères sont toujours plus jeunes en moyenne que les hommes mères, et ça se voit pour n'importe quelle tranche de population. Donc ici, vous avez l'âge moyen des hommes et des femmes, et vous voyez que c'est différent. Les femmes sont toujours plus jeunes que les hommes.
Bon, Sylvie Serac, préparez-vous pardon, à des questions sur les femmes. Hein.
L'autre chose, on estime que dans les années 50, les agriculteurs étaient maires de 50% des communes. Et ça, c'est aussi un trend qui change beaucoup, une tendance, c'est que les agriculteurs délaissent de plus en plus de devenir édiles pour des autres manières de manifester, pour des autres choses. Et puis, tout simplement parce que avant, un agriculteur, il pouvait aller, une fois qu'il avait fini de travailler, il allait à la mairie, il travaillait et tout. Maintenant, un agriculteur, il a autant de tâches administratives qu'un maire pour remplir tout ce qu'on lui demande. Donc, c'est de plus en plus difficile. Alors, j'en viens à votre question. Pourquoi les maires se représentent-ils? Alors, ça, c'est des questions qu'on a posées aux maires. C'est l'enquête qu'on fait à AMF, avec l'Association des maires de France. Première question, votre mandat actuel de maire a-t-il déjà eu un impact sur votre vie personnelle? Et vous voyez que déjà, 26% répondent positifs, mais 30% répondent négatifs. Donc, c'est quand même quelque chose qui impacte sa vie familiale. Comment ils ont pris la décision pour se représenter, ceux qui nous ont dit qu'ils allaient se représenter, c'est avec l'entourage familial. Et enfin, parmi les raisons suivantes qui ont motivé votre choix de vous présenter, principalement, c'est pour poursuivre les projets déjà engagés. et l'intérêt général. Je conseille vraiment à tout le monde, s'ils en ont l'occasion, d'aller voir un jour le congrès des maires à Porte de Versailles. C'est vraiment très intéressant parce que cette notion d'intérêt général est fondamentale.
Ben là, justement, on va pouvoir poser la question directement à nos autres intervenants. Vous arriviez au bout de votre
de juste chiffres. Une dernière. Voilà, donc vous en avez parlé. Juste pour le titre, le maire à proximité des sentiments. Pourquoi j'ai mis ce titre? Parce que en général, quand on demande au maire pourquoi vous pensez que les gens vous aiment bien, il vous répond parce que je suis à proximité d'engueulade. C'est une expression qui est très
que Nicolas,
voilà, à portée de baffe, à portée d'engueulade. Mais je pense qu'ils sont aussi à portée de l'ensemble des sentiments que peut générer la fonction, et pas seulement les engueulades, mais il y a aussi de l'admiration et d'autres choses que l'on a pour son maire. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation qui introduit admirablement nos débats. Alors peut-être que Sylvie Sérac, on peut commencer avec vous dans les réactions. Forcément, j'avais quand même envie de vous demander ces chiffres sur les femmes qui se représentent moins que les hommes. Est-ce que ça vous étonne ou voilà, comment est-ce que vous l'expliquez? Et puis pourquoi vous personnellement vous représentez? J'ai dit que vous étiez élue depuis 2008. Voilà, qu'est-ce qui vous attache en fait à ce mandat?
Qu'est-ce qui m'attache? J'adore. J'adore parce que j'ai toujours voulu faire ça en fait, depuis que je suis jeune. J'ai toujours été intéressée par des élus. Voilà. Ma grand-mère, elle faisait des réunions d'appartement avec des élus déjà. Et donc, si vous voulez, j'ai toujours connu ça. Bon. Et j'ai toujours eu envie parce qu'en fait, j'aime bien l'endroit où je suis, dans le 15e arrondissement où je suis née aussi, vous voyez, donc ça fait longtemps. Mais j'aime mon arrondissement, j'aime les gens, j'aime les rencontrer, j'aime essayer de faire quelque chose aussi pour eux. Ça, c'est plus difficile hein, parce que malheureusement, on peut pas toujours réussir. Mais voilà. Et j'avais dit au début du mandat qui se termine actuellement, j'avais dit c'est mon dernier mandat. Le troisième, c'est bon, j'arrête, ça suffit. Quand j'ai vu un an avant, il y a un an, j'ai commencé à me dire oh là là, je vais m'arrêter, c'est embêtant, etc. Parce que j'ai créé des liens avec des tas d'associations, avec beaucoup de gens et que j'aime ça, j'aime être sur le terrain surtout. Moi, c'est surtout le terrain qui m'intéresse. Hein. J'ai pas toujours des jours faciles parce que je
m'occupe
des affaires
sociales. L'impact sur la vie familiale.
Alors l'impact sur la vie familiale, elle est réelle, sauf que moi, je suis plutôt une grand-mère. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais encore des enfants à la maison, j'en ai plus, mais je comprends que les femmes ce soit quand même difficile. Hein. Je trouve d'ailleurs que la priorité des priorités, c'est la famille. Bon. Donc quand vous êtes marié, que vous avez des enfants et surtout des jeunes enfants, il faut savoir qu'il y a des réunions tous les soirs. Il y a pratiquement pas de soir disponible où on rentre à 9h, 10h.
Les week-ends aussi.
Les week-ends, bien sûr, on est sur le terrain, hein, c'est clair. Et même hors campagne, hein, bien sûr, hors campagne. Donc je trouve que c'est pas très facile d'élever ses enfants comme ça. Alors je sais que la vie moderne est un peu différente de celle que j'ai connue, hein, où il y avait moins de femmes qui travaillaient. Mais j'admire beaucoup mes collègues qui sont jeunes, qui ont des enfants, qui sont très capés et qui font des choses formidables. Mais évidemment, on les voit moins à la mairie dans la journée, forcément.
Merci beaucoup, au moins pour cette première réaction. Nicolas Samsoun, je vais vous donner la parole à vous. J'avais vu dans ce que vous m'avez envoyé, et dans nos échanges précédemment, que vous ne vous réjouissiez qu'à moitié de ces chiffres pourtant très élevés sur la confiance. Et vous voyez dans cette confiance à l'égard des maires aussi le signe d'un affaiblissement du collectif. Pourquoi est-ce que vous faisiez cette lecture, à la fois positive, mais pas seulement?
Ce qui est frappant, c'est le contraste. Je pense qu'effectivement, la démocratie communale, je pense que pas la démocratie locale, je dis bien la démocratie communale, elle marche encore à peu près. Le reste, c'est quand même un peu désespérant. Et je pense qu'il y a même une espèce de je ne sais pas dire, mais d'exagération de l'affection pour le maire liée au désamour pour la politique nationale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a parfois le sentiment de devenir le dernier recours. Moi, je suis frappé de gens qui me posent y compris des questions de politique nationale.
Qui ne sont pas de votre ressort.
Alors, ni de près, ni de loin, mais parce que je suis le sachant, enfin, en tout cas, supposé sachant, le plus proche à qui ils peuvent parler. Donc, enfin, l'affaiblissement de la démocratie nationale est quand même un vrai sujet. Donc voilà, c'est sans doute par effet de contraste.
Et alors sur le côté proximité, effectivement, là aussi, comment est-ce que vous ressentez cette proximité? Comment vous...
Oh, bah, ce qui a été dit est très juste. Moi, je déteste l'expression à portée de baffe. Ça, d'abord, j'ai pas l'intention de prendre des baffes. C'est pas pour ça que je fais ça. Mais à portée de discussion, oui. Effectivement, à portée éventuellement de discussion un peu vive et ferme, franche, mais pas d'engueulade ni de baffe. Et moi, je pense qu'il y a surtout un. Je fais toujours le lien entre les questions de proximité et les questions de développement. C'est-à-dire, je pense que le boulot d'un ou d'une mère, c'est à la fois d'être présent sur les questions de vie quotidienne, parce que c'est la condition de la confiance. En gros, si je suis pas là pour répondre au sujet du bout de trottoir, de l'éclairage en panne, de l'arbre mal élagué, du dépôt sauvage, je peux toujours essayer de leur parler de grands projets pour la ville, diront même, voilà. Dès lors qu'au contraire, je travaille et que les gens savent que sur des sujets du quotidien, je suis a priori disponible, alors là, c'est un point d'appui qui permet d'emmener sur le reste. Et je pense, et je reviens à votre première question, je pense que c'est bien le sujet, c'est comme il n'y a plus de prise pour la politique nationale avec le quotidien, la capacité emmenée donne le sentiment d'être hors sol. Si je parle d'un grand projet, personne ne pense que je suis hors sol parce que je suis aussi là sur les petits projets. Par contre, le niveau national, il ne parle plus de grands projets, plus que de grands projets.
En fait, l'impuissance, le sentiment d'impuissance se joue ou se vérifie aussi dans les petites
Et c'est petites même choses. C'est là que ça se joue, c'est là que se crée le lien. C'est là que c'est vraiment sur les choses du quotidien. Enfin, c'est ce que vous disiez. Enfin, c'est le terrain. Enfin, c'est une expression qu'on emploie tous. Hein. La capacité à être là, à comprendre, à prendre le temps. Écoutez, c'est tellement précieux et c'est là qu'on crée le lien de confiance qui fait qu'ensuite on peut faire le boulot d'élu qui est aussi d'emmener le boulot d'élu. C'est pas juste de suivre la population, ça c'est juste le boulot de démagogue. Le boulot d'élu, c'est de créer la confiance et sur cette base-là d'emmener.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'en fait, on est le premier échelon des élus. Hein, on est le premier, surtout élu communal, mais c'est aussi le seul endroit où vous pouvez voir un élu facilement, hein, puisque les députés ils sont à la Chambre des députés, les sénateurs aussi, enfin je veux dire, c'est pas abordable. Dans une mairie, vous pouvez rentrer toute la journée et tous les jours, vous pouvez voir à n'importe quelle heure, des heures d'ouverture, on va dire, faut être raisonnable quand même, des heures d'ouverture, vous pouvez voir un élu, hein, qui a une permanence et qui vous ouvre sa porte et qui va vous écouter. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. On est les seuls. Moi, j'ai quelque chose que je regrette beaucoup, c'est la loi de 2014 qui a été appliquée après les élections de 2017, qui a supprimé le cumul des mandats entre un maire et un député. Un député ne peut pas être maire, ne peut pas être faire partie d'un être exécutif dans une commune. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que le député, il a un rôle très important, il fait les lois. Enfin, je ne remets pas ça en question. Mais c'est dommage parce qu'il n'a plus du tout les pieds sur le terrain. Et si vous êtes dans une commune où le maire et le député n'ont pas la même couleur politique, ce qui peut évidemment arriver très souvent, ça complique encore les choses, vous voyez. Et donc, il est un peu hors sol. Et les gens le ressentent, ça, les gens le ressentent. Mais c'est vrai qu'une mairie, on est un peu le doudou quelquefois. Hein, c'est-à-dire qu'on vient vous demander, je sais pas, si on peut trouver une femme de ménage, mais aussi le trottoir qui est au bout de la... Ah bah oui, et même dans une ville, même dans un arrondissement de 235 000 habitants, comme le 15e arrondissement.
Et en fait, c'est une grosse ville, quoi.
Qui est quand même aussi gros que Bordeaux. Hein, voilà. Et donc, je pense que c'est ça qui les...
Oh, c'est toujours intéressant de voir d'où les choses viennent. L'élection des maires au suffrage universel, c'est Jules Ferry. Et il y a dans un livre merveilleux que je vous recommande, qui s'appelle Composition française de Mona Ozouf, elle raconte extrêmement bien comment justement Jules Ferry veut l'élection du maire au suffrage universel pour créer ce qui existe typiquement en Angleterre et assez peu en France, c'est le club. En Angleterre, il y a le club, il y a des contre-pouvoirs locaux. Et ce qu'elle se dit, c'est que l'onction par le suffrage universel du maire va créer cette communauté, pour prendre une traduction du terme anglais community, qui va être vivante. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement visionnaire. Pour moi, le grand mal français, c'est le jacobinisme. C'est vraiment le grand mal de notre pays. Et justement, l'élection du maire au suffrage universel, c'est l'une des réponses au jacobinisme.
Oui, un début de remède. Alors, peut-être qu'on peut vous passer la parole, Alexis Boja. Donc, vous, vous avez une position différente. Donc, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes consultant. Et notamment, donc, pour des administrations publiques, qui ont des mairies comme partenaires souvent. Comment est-ce que vous voyez leur rôle de votre point de vue à vous ? Et est-ce que ça confirme ce que disent là des élus, c'est-à-dire que c'est vraiment le premier maillon de l'action publique, le premier contact, le premier stade voilà.
Alors déjà, vous avez bien fait d'introduire le sujet tout à l'heure par le biais de la performance, parce que nous, c'est notre question. La raison pour laquelle on peut faire appel à mon cabinet, c'est pour généralement renforcer, accompagner la mise en œuvre d'un grand projet, l'identification de manières de mieux faire les choses. Et donc cette question de la performance, elle se pose vraiment à la fois au niveau de la cohésion de l'équipe municipale et du lien qu'entretiendra personnellement le maire avec ses citoyens, mais aussi au niveau national, bien sûr, et avec la place qu'occupe l'échelon municipal dans l'action publique. Alors là, déjà, un chiffre important à avoir en tête, c'est que 58% de l'investissement public est porté par des collectivités territoriales. C'est-à-dire que sur tout ce qui est investi avec vos impôts, concrètement, plus de la moitié est directement ordonné et directement engagé par des collectivités territoriales, parmi lesquelles les mairies. Alors là, en fait, dans ce cadre-là, bien sûr que la place de la mairie, en tant que acteur direct de l'aménagement du territoire local, des crèches, de la restauration scolaire, avec ses compétences, finalement, est vraiment au cœur de cette question de la performance publique. Et après, la question plus micro, vu que là, c'était quand même le cœur du sujet, c'est dans quelles conditions est-ce que le maire, aujourd'hui, peut exercer son mandat ? Et donc là, on s'intéresse par vos retours, sur en fait finalement la question du métier de maire, du métier d'élu et des conditions dans lesquelles il l'exerce. Alors il y a eu beaucoup de lois ces derniers temps pour renforcer le traitement des maires, faciliter. Alors dans la dernière loi de décembre 2025, on a autorisé les maires à réunir leurs équipes municipales en visioconférence. Voilà, c'est dans toutes ces
faciliter leur travail.
Voilà, finalement tous ces paramètres.
Et finalement, enfin. Permettre de trouver enfin
conditions d'exercice voilà. Mais donc ça finalement c'est une porte d'entrée, mais nous ce qu'on invite vraiment la question se pose vraiment très globalement autour de la place de la mairie dans cette action publique. Et alors à ce niveau, ce que je constate par les différents projets et les différents sujets sur lesquels j'ai été amené à travailler, c'est que finalement cet échelon, malgré les tendances qu'on peut avoir de jacobinisme et de recentralisation et de mutualisation des moyens à l'échelle intercommunale, malgré les tendances qu'on peut avoir de tout regrouper dans des grandes agences qui vont déployer nationalement des plans, en fait, la mairie reste le partenaire incontournable, reste l'acteur, enfin l'échelle de la mairie, l'échelle communale, reste l'échelle incontournable pour le déploiement de ces politiques. Un
les
exemple,
petites de moins de 1000 habitants comme les plus de 1000.
Beaucoup de députés se sont récemment un peu jeté des fleurs autour, par exemple, d'une grande mesure d'Emmanuel Macron, qui est le dédoublement des classes. Et en fait, c'est une mesure là, qui a eu un grand impact sur la qualité de scolarisation, etc. Mais donc, en fait, c'est une mesure dont les députés peuvent s'enorgueillir d'avoir été
enfants.
Pour les très jeunes enfants. Les députés, finalement, ont voté cette mesure. Ils en étaient très fiers. Mais ceux qui l'ont mise en œuvre, ceux qui ont concrètement organisé l'espace d'accueil de ces enfants, organisé tout l'aménagement autour des écoles, qui en ont vraiment concrètement porté la charge, c'est bien les maires. Et c'est vraiment un exemple de politique publique qui a été, dont finalement le pilier a été cet échelon municipal. Et alors, un autre exemple qu'on peut avoir en tête, c'est aujourd'hui, il y a tout un ensemble de grands programmes nationaux, de plans petite enfance, de plans action cœur de ville, dont vous avez sans doute connaissance pour leur grand titre. Mais finalement, derrière ces plans, en fait, c'est souvent des appels à projets, c'est souvent des enveloppes d'accompagnement. Et ceux qui font le job, c'est les équipes municipales, c'est les maires, et c'est vraiment cet échelon territorial, enfin, cet échelon local. Donc vraiment, même quand on regarde la question, on va dire, de haut, avec l'échelle de l'action publique en général, finalement, il y a souvent un maire dans l'histoire qui porte le dispositif.
C'est aussi votre impression à tous les deux, vous comme élus, c'est d'être partenaire de politique publique plus large à votre niveau ou...
Déjà, quand l'État ne nous empêche pas d'agir, c'est déjà vachement bien. Non, honnêtement, et je reprends la question, ces trucs-là sont à chialer d'inefficacité. Si vous voulez, c'est, on a un espèce de truc de dingue où on a un échelon qui, quand même, globalement, marche pas mal. Il y a une corde de rappel démocratique. Alors, bien sûr, c'est pas parfait, il n'y a pas de système parfait, mais il y a une proximité.
Tous les 6 ans avec les élections.
Ouais, il y a quand même, voilà.
Bon, une proximité.
Il y a quelque chose qui marche quand même pas mal. Et l'État, qui est la structure la plus court-termiste et la moins stratège de l'univers, essaie de passer son temps à nous imposer des trucs qui nous font perdre un temps. Moi, je prends un exemple. Je suis président de la maison de l'emploi intercommunale. On travaille bien ensemble. En fait, notre boulot consiste à essayer de faire rentrer les politiques qu'on essaie d'inscrire dans le temps dans des dispositifs d'État qui ne cessent de changer. Je pense que enfin, les gens ici présents ne mesurent pas à quel point c'est inefficace. Vraiment. Mais si l'État arrêtait de s'occuper de tout ça, qu'est-ce que ça marcherait mieux? Qu'est-ce que ça marcherait mieux? Enfin, parliez de certains plans. Il y a un plan pauvreté. On a eu une annonce du président de la République qui disait il faut que dans toutes les cantines scolaires, le repas soit 1 euro maximum. J'ai regardé chez moi, c'était 0,99 le prix le plus bas, etc. Je dis, mais franchement, occupe-toi de tes affaires. Je pense que le meilleur résumé de l'impuissance de l'État, c'est le grand débat, le premier grand débat qu'Emmanuel Macron fait suite aux Gilets jaunes. Il est interrogé sur la gestion des bassins versants de la Seine et de l'Eure. C'est chez Le Cornu, près de Vernon. Et comme le gars est extrêmement
smart... Quoi le rapport avec les Gilets?
Je vous raconte. Justement, comme ça parle de tout, il est interrogé là-dessus. Comme c'est quelqu'un d'extrêmement smart, qui connaît bien ses dossiers, etc., il répond brillamment. Et il y a juste... On avait déjà quelques petits problèmes avec Poutine, et il y a juste un journaliste qui fait cette remarque qui me paraît résumer le problème français. Quand c'est la même personne qui doit s'occuper de gérer les bassins versants de la Seine et de l'Eure et de faire la paix avec Poutine, on a un problème. Je pense qu'on a résolu, on a dit ce qu'il y avait.
Sylvie Sérac.
Moi, je confirme aussi. Les grandes politiques nationales font quand même entraînent un peu les choses. Moi, je donnerai un autre exemple. Dans notre arrondissement, on a deux quartiers politiques de la ville. Un quartier politique de la ville, c'est décrété par l'État. Et ça représente...
Du coup, il y a des moyens de l'État.
Alors, ça s'adresse effectivement à des... Alors...
L'avocat du diable.
Bon, alors, nous, on a l'État, mais on a la ville en plus, hein, parce que l'arrondissement, il dépend de la ville. On n'est pas une commune de plein exercice. Bon, alors, les quartiers politiques de la ville, donc, ça correspond à des quartiers qui ont des revenus médians qui sont en dessous du taux moyen de Paris. Bon. Alors là, il y a des moyens quand même. Honnêtement, il y a des moyens qui sont donnés aux associations. Bon, ça c'est bien. Mais après, pour ces moyens, pour les faire, pour les avoir, pour que les associations comprennent qu'il faut qu'elles fassent des appels à projets, qu'elles remplissent des dossiers absolument épouvantables, qu'elles ne comprennent pas que nous, on les aide, on ne comprend pas toujours non plus, qu'on pousse, qu'on tire, qu'on machin. Et là, il y a une perte de temps et d'énergie incroyable, incroyable. Et je pense que c'est ça aussi qui peut-être écœure certaines personnes qui veulent plus se représenter comme maire et compagnie, parce qu'ils en ont marre d'avoir toutes ces contraintes, ces normes et ces difficultés pour faire avancer les choses.
Alors, peut-être juste, on peut vous repasser la parole, Pierre-Henri Bonneau. Est-ce qu'effectivement, ce facteur-là de l'éternel problème des relations entre les communes, des collectivités locales en général, mais là, en l'occurrence, des communes avec l'État, est une des raisons qui apparaissent pour la difficulté à trouver des candidats ou pas?
Je ne sais pas si c'est une difficulté pour trouver des candidats, mais quand on pose la question au maire, quelles sont les institutions qui font avancer vos projets, quelles sont les institutions qui freinent vos projets, largement en tête arrive la préfecture, donc l'État. L'État est perçu par les maires comme...
Je pense que vous avez tout à fait raison, mais en province, dans les territoires, comme on dit maintenant, dans les grandes villes, c'est un petit peu différent.
Ah oui, sûrement. Là, je parle de ce qui répond. Ce n'est pas une, ce n'est pas une vision, mais voilà. De toute manière, nous, nos enquêtes, voilà, c'est de regarder l'ensemble des maires et des petites communes. Mais c'est vrai que il y a deux choses. Une, maintenant, il faut ce qu'ils appellent une ingénierie administrative pour pouvoir répondre au projet. Et ça, ça pose un problème parce que ça favorise les maires qui ont été cadres et qui ont été habitués à faire ce genre de pratique.
C'est-à-dire qu'il y a une technicité plus grande dans le métier d'élu local.
D'élu local, voilà, beaucoup plus grande, qui vous dit. Parce que, et je vais faire sûrement bondir monsieur le maire, mais quand vous allez vous discuter, et la première chose qu'on vous dit, c'est « Ah non, de l'argent, il y en a. » De l'argent, il y en a. Mais seulement, il faut savoir le demander. À l'Europe, à la région, au département, non, mais à l'État, à toutes sortes de collectivités. Mais il faut avoir cette ingénierie administrative pour pouvoir aller remplir les dossiers. Et donc, les gens qui étaient cadres dans des grandes entreprises qui se retrouvent maires à la retraite, ben, ils ont un avantage. Et ceux qui avaient plus de difficultés, ben, quand ils voient, voilà, exactement ce que vous disiez, cette difficulté
à rentrer dans les cases, de
remplir tout ça, ça peut les décourager. Et surtout, ben voilà, ça change aussi la sociologie des maires. On aimerait qu'ils soient quand même plus représentatifs de la société, pas seulement des cadres supérieurs.
Dans ce cas-là, oui, ça va pas dans ce sens-là. Enfin, la technicité de la tâche va pas trop dans le sens de la diversification des profils. Juste, Alexis Boja, comment est-ce que vous réagissez à ces, j'allais dire plaintes, c'est pas très gentil, mais ces remarques, ces critiques. Comment est-ce que vous en tenez compte et comment est-ce que vous pouvez faire pour que dans la recherche de l'efficacité, ce soit quand même que vous puissiez embarquer en fait les élus locaux et notamment les maires.
Oui, alors je pense qu'il y a deux réponses. La première, c'est en fait, tout comme une mairie va s'intéresser à sa relation de guichet, sa relation de service va optimiser son espace d'accueil pour que les administrés aient un petit banc pour patienter. Et en fait, le ministère de l'Intérieur et les administrations centrales qui sont en lien avec les collectivités ont beaucoup à faire pour améliorer leurs relations usagers avec les communes et les collectivités qui sont aussi leurs usagers à elles. En fait, aujourd'hui, dans la relation autour de ces grands programmes, alors à la fois les grands programmes un peu flamboyants, mais aussi juste des choses aussi élémentaires que distribuer nationalement des titres d'identité, que organiser les guichets, qui sont une compétence dévolue au niveau des mairies, mais qui reste une compétence de l'État, donc sur laquelle il y a beaucoup d'échanges, et je pense que c'est un sujet qui est vraiment dans les esprits de beaucoup d'élus. Mais rien que dans ce service élémentaire, il y a beaucoup à faire pour finalement simplifier le travail des mairies qui ont donc leur dispositif de recueil, leur guichet de demande de titre d'identité, tout comme les mairies elles-mêmes ont à charge d'avoir des sites avec des procédures qui donnent bien les étapes aux citoyens. En fait, c'est vraiment toute une chaîne à fluidifier et donc vraiment ça se fait à tous les niveaux. Et le deuxième élément de réponse peut-être, c'est vraiment de se dire que certes le maire évolue dans un univers de contraintes. Le maire, en fait, finalement, il a des compétences qui sont partagées. S'il veut construire une voie cyclable, selon la route qu'elle va longer, que ce soit une départementale, une voie communale, voire même une voie nationale, en fait, il va devoir s'adresser à des interlocuteurs très différents, faire des dossiers, des procédures très différentes. Enfin, il y a vraiment un univers de contraintes très fort. Mais aujourd'hui, le maire ne peut pas dire c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Aller voir le département, aller voir la région, le maire reste la porte d'entrée. Le maire garde cet héritage de ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui fait que voilà, qu'il peut intervenir et qu'il peut être vraiment l'interlocuteur, en tout cas le référent sur tous les sujets. Et donc en fait, finalement, juste il y a un peu un double tranchant, c'est-à-dire que à la fois aujourd'hui le maire, la mairie subit ses contraintes et aujourd'hui évolue dans un environnement de plus en plus complexe, mais aussi incarne et donc bénéficie de ce qui se passe bien. Quand un grand projet d'aménagement, je pense au Grand Paris, je pense à un grand dispositif qui va financer la rénovation des centres-villes, quand tous ces programmes-là sont aussi, les fruits et les bénéfices de ces programmes-là sont aussi un peu cueillis par les maires. Donc faut aussi avoir en tête
à la fois ils font porte d'entrée générale sur tout ce qui les concerne et ou pas, mais du coup, ils récupèrent aussi les fruits de ce qui se fait et qu'ils ont mené directement ou pas directement.
Voilà. Dans cette figure du maire bâtisseur, il y a l'action du maire et au-delà.
Sauf que dans les grands projets, il y a un élément, c'est le temps. C'est extrêmement difficile de faire sortir un projet, que ce soit de l'urbanisme ou autre chose. Et donc le maire, s'il est élu 6 ans, quelquefois il a le début. Il a beaucoup bossé dessus et tout, mais quand ça sort, il est plus maire.
Donc ce qui doit expliquer le fait qu'il se représente
aussi sans doute, ouais. Sans doute.
Oui, et que en fait on a envie de voir le résultat de ce qu'on
a
impulsé.
Oui, sûrement. Mais c'est pas toujours possible. J'ajoute quand même, vous dites les titres, c'est une compétence de l'État. Oui, tout à fait. Mais c'est effectivement, ça se passe dans les mairies. Sauf qu'il y a aussi quelque chose qui intervient depuis quelques années, mais déjà, bien sûr, qui est peut-être un peu en voie de disparition, mais qui est encore très très prégnant, c'est l'accès au numérique. Et tous les dossiers sont à faire comme ça. Et la population n'est pas encore tout à fait mûre pour, dans tous les cas. En plus, on sait très bien, tout d'un coup, on a tapé un truc qu'il ne fallait pas taper, donc ça bloque tout, on recommence, on n'a pas le code, enfin c'est très compliqué. Et donc, on a besoin aussi d'aide, nous à la mairie, on a quelqu'un qui fait que ça pour remplir les dossiers des gens qui arrivent en disant « je ne comprends pas, j'arrive pas », etc. Voilà.
Et il y avait peut-être encore un sujet sur lequel je voulais vous questionner, là c'était plutôt alors, sur le fonctionnement des équipes municipales. Est-ce que vous voyez donc dans cet échelon, puisque donc la question c'était quand même, est-ce que ça peut redynamiser la vie politique, est-ce que vous voyez une spécificité dans le fonctionnement des équipes municipales entre majorité et opposition, alors que ce soit vous, Pierre-Henri Bonneau, à l'échelle nationale, ou vous dans vos expériences personnelles?
C'est-à-dire, j'ai pas bien compris la
question. Est-ce qu'à l'échelon municipal, il y a quelque chose qui se passe mieux entre majorité et opposition qu'à d'autres échelons, que ce soit dans les autres collectivités locales ou à l'échelon national?
Ça dépend, mais vous avez plein de communes où c'est une équipe de copains qui sont partis et qui ont dit qu'est-ce qu'on fait, on va prendre la mairie. Donc ça peut être une équipe de copains, ça peut être
ça,
quelqu'un.
C'est vrai que dans les petites communes.
C'est vrai que dans les petites communes, mais dans le truc. C'est quand même aussi le lieu d'affrontement. On est partis ensemble et puis.
Donc l'équipe de copains, c'est un peu une image d'Épinal.
C'est une image d'Épinal et puis oui il y a tellement de communes, il y a autant de situations que de communes. Vous voyez combien on voit de premiers adjoints qui vont concourir contre leur maire. C'est quelque chose qui est quand même assez.
L'idée d'opposer, en fait, là vraiment c'était de l'ordre de l'idée de l'image d'Épinal, opposer le fonctionnement absolument quand même cataclysmique aujourd'hui de l'Assemblée nationale à des conseils municipaux qui seraient plus pacifiés, civilisés, etc. C'est vrai et faux, il ne faut pas exagérer non plus la différence.
En moyenne, une ville, elle a une équipe qui a gagné, elle a 80% des sièges. Donc, partout,
c'est ça qui explique en fait.
Voilà, et puis, très vite, voilà, la prime majoritaire fait que vous avez 80% des sièges. Et très vite, l'opposition ne vient plus. Dans beaucoup d'endroits, elle disparaît et elle revient une année avant l'élection.
Vous pouvez réagir, Nicolas Samson.
Je partage pas tout à fait le tableau qui est fait. Ni sur le premier adjoint qui se prend contre le maire, ça arrive. C'est quand même pas une figure hyper courante, quand même. Enfin, pas exagéré. Non. Deux commentaires sur une question précise. Un, il y a une raison fondamentale pour laquelle ça se passe mieux, c'est qu'il y a un système majoritaire qui marche. C'est-à-dire qu'il y a une équipe. Qu'elle ait été bien élue, mal élue, etc., elle a la majorité,
elle a
la capacité à agir, et c'est facile. Donc ça, il y a un truc très lié au système électoral. Après, il y a quand même une évolution que moi je ressens, et que j'ai l'impression que beaucoup de mes collègues ressentent, qui est pas très positive, et qui joue, y compris au niveau local, c'est l'absence totale de pudeur à mentir. Non mais, vraiment, c'est-à-dire que dire 2 plus 2 font 5 est un truc qui se faisait pas, ni au niveau national ni au niveau local.
Maintenant ?
Mais alors, du n'importe quoi flagrant. Attendez, je vous avais rappelé gentiment que j'étais un vieux politicien usé, mais.
Vous aviez de l'expérience.
Non, mais je blague. Mais, donc, je veux dire, je suis pas un bisounours. Évidemment, parfois, on peut présenter les choses de manière plus ou moins avantageuse, etc. Ok, mais enfin, moi, genre, c'est peut-être là mon côté, effectivement, vieille école. Je ne sais pas regarder quelqu'un dans les yeux et dire de plus de fond 5. Ben, je constate que ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est une tendance qui m'inquiète. Je trouve qu'il y a un rapport simplement à la vérité. Après, il peut y avoir une diversité de points de vue, mais un rapport à la vérité qui, pour moi, se met à atteindre le niveau local et dont j'espérais qu'on était préservé.
Je confirme, dans les grandes villes, il y a quand même une opposition, même si on est majoritaire. Bon, il y a quand même une opposition et elle est de plus en plus radicalisée. Donc elle est de plus en plus, on va dire, méchante, agressive. Hein. Et vous avez raison, ils sont capables de vous dire que vous êtes habillé tout en rouge, même si c'est pas le cas. Bon, c'est n'importe quoi. Ben oui, moi je suis en rouge. Mais comment ça? Non, mais c'est, vous avez raison. Alors à Paris, c'est évidemment peut-être encore un peu plus spécial, hein, parce que Paris, c'est très politique. Le Conseil de Paris est un endroit.
C'est le théâtre,
où tout le monde veut exister aussi. Il y a ça aussi, hein, parce que les élus, il faut qu'ils se présentent, ils ont des égos. On a tous des égos, certainement, sinon on serait pas là. Bon. Mais il faut qu'ils existent. Alors quand vous êtes dans l'opposition, pour exister, ben vous pouvez exister que si vous tapez sur les autres, quoi. En gros, c'est un peu ça. Voilà. C'est pas bien.
Alexis Beaujean.
Ouais, si on revient sur la statistique que vous rappeliez en introduction, en fait, sur cette confiance envers la figure du maire, donc 69%, et qui en plus une confiance qui croît au fur et à mesure qu'on s'approche des villes de plus en plus petites, qui monte jusqu'à 78% pour les communes de 1000 habitants. Ben finalement, je pense qu'il y a un lien en fait derrière. C'est plus la campagne a été virulente, plus la campagne s'est rapprochée finalement de la campagne nationale avec les partis qui en font leur affaire. Et ben moins cette équipe municipale va être, plus l'équipe municipale va être plongée dans des débats, dans des débats un peu de surface, on va dire. Et donc, moi, pour répondre à votre question, on a évoqué un peu les deux grands axes que moi, en tant que citoyen, pour le coup, je pourrais attendre envers mon équipe municipale. Le premier, c'est la représentativité, le fait que cette équipe municipale, elle reflète ma ville et que tous les intérêts y soient représentés. Et le deuxième, c'est la compétence. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si dans les compositions de vos équipes, de vos listes, vous avez trouvé comment est-ce que vous avez géré cet équilibre entre le fait d'avoir à la fois un peu tous vos territoires, toutes vos collectivités représentées, et en même temps des partenaires qui vont pouvoir vous porter sur les sujets de santé, d'aménagement, d'économie, etc.
Pardon, on est des élus. Il y a des services. La Massy, c'est une ville moyenne, hein, c'est 50 000 habitants, c'est pas très gros. Il y a plus de 1000 employés municipaux. Donc, il y a quand même des services. Donc, moi, je n'attends pas que les gens soient. Enfin, ça dépend ce qu'on met derrière le mot compétence. En tout cas, c'est pas le même mot.
Pas des super techniciens.
Voilà, je leur demande surtout pas. Surtout pas. Je veux dire, il n'y a rien de pire qu'un élu qui fait le boulot du chef de service. Alors, ça, c'est total. Le boulot d'un élu, c'est trois choses, je le répète à chaque fois à mes élus, c'est de donner du sens, de hiérarchiser, de donner des priorités, d'être sur le terrain en lien avec les gens et d'être la partie la plus agréable mais pas négligeable, de s'assurer de que les choses sont effectivement faites. Pour moi, c'est ça le boulot d'un élu. C'est pas de faire. Donc, sur des questions, alors a fortiori sur des questions un peu techniques comme l'urbanisme, l'aménagement, l'élu doit avoir du recul, il doit comprendre. C'est pas mal de comprendre un peu comment ça marche, évidemment, mais c'est pas lui qui fait. Hein.
Oui, vous pouvez continuer. Et puis en même temps, peut-être que on va commencer à. Vous pouvez préparer vos questions parce que je vais vous passer la parole à vous maintenant et vous allez pouvoir interroger nos intervenants.
Et moi, juste, la clé de réconciliation entre ces idées d'une équipe municipale compétente, experte et finalement représentative, là où je voulais en venir, c'était aussi le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la clé, c'est quand même d'avoir une approche participative de la gouvernance. Et on voit quand même un grand florilège. Et là, pour le coup, un consultant peut être bien placé pour voir la grande diversité des méthodes qui se mettent en place pour recueillir la perception, la parole des usagers, que ce soit aujourd'hui en ligne, que ce soit par des actions de concertation, que ce soit par, habitant à Paris, vous êtes aussi confronté à un mode qui fait beaucoup l'objet de discussions, qui est le référendum. Donc il y a tout un, tout un ensemble de dispositifs qui aident à croiser ces sujets de compétences et de représentativité.
On prend deux ou trois questions.
Je suis un ancien élu, à la fois d'une ville de 40 000 habitants où j'étais maire adjoint, et puis deuxième mandat, je l'ai fait dans une collectivité rurale où là j'ai fait une liste dite d'opposition et autres. Alors, vous avez surtout parlé des villes. Or, en ruralité, je dirais, petite ruralité, ma commune est de 1500 habitants. Le maire, oui, c'est l'échelon principal, mais il ne peut rien faire. Il y a un trou dans la rue, ah, c'est la communauté de communes. Il y a un problème à l'école, ça aussi, c'est la compétence. Voilà. Autre exemple, on est dans une commune, une région un peu touristique. On a un délégué à la commune chargé du tourisme. Parce qu'il y a un château et donc il faut s'occuper. Il y a un vice-président à la communauté de communes, chargé du tourisme. Il y a dans la circonscription, il y a un syndicat de pays, donc qui regroupe, je dirais, un petit peu au niveau d'un arrondissement. Là aussi, il y a un vice-président chargé du tourisme. Le département a besoin d'un délégué au tourisme. On ne voit pas la région sans délégué au tourisme, plus l'État, qui a un représentant chargé du tourisme. Donc, on a beaucoup de personnes, mais comme vous l'a dit monsieur le maire de Massy, les élus ne sont pas chargés du tourisme. Ils sont chargés de réaliser, ils ne sont pas des techniciens. Ils sont chargés de donner du sens, essayer de voir la coordination des projets. Alors, ça fait beaucoup de réunions, et finalement, ce qui se passe, il n'y a rien au niveau du tourisme. Rien, rien, rien. Voilà. Et c'est là où je crois aussi qu'il y a, avec la prime majoritaire de 50%, une surreprésentation de la majorité. Je vois, j'ai été dans le deuxième mandat dans la petite collectivité, où je faisais un peu une liste d'opposition, j'avais eu quand même 36% des voix. 18 élus sur la commune, je n'ai eu que 3 représentants, donc 15%, alors que j'en représentais 36. Et comme on est dans une interco, j'avais qu'une seule place à l'interco. Et pas grand-chose, parce que l'interco, c'est là où se décident beaucoup de choses, au niveau rural, au niveau des villes moyennes. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose à Paris, hein, sans doute, ou dans les grandes villes. Mais l'interco, c'est là où il y a la compétence. C'est là où il y a la compétence. Et on a beaucoup de difficultés à transférer. Je trouve que les communes ont trop de pouvoir, à la limite. La commune. Les 34 800, parce qu'il y a 34 800 communes, ont trop de pouvoir parce que, je dirais, elles ne sont pas capables de gérer les vrais problèmes. Elles n'ont pas les équipes pour gérer les problèmes. Les équipes techniciennes, elles se trouvent à l'interco au minimum. Une interco qui a 15, 20 000 ou 30 000 habitants. C'est là où on peut avoir un technicien qui est capable de, parce que ce n'est pas à l'élu, d'être le technicien, d'analyser, de vérifier les compétences techniques des marchés et autres. C'est à 30 ans. Donc, ce n'est pas dans ma commune de 1500 habitants que je peux avoir un technicien chargé de surveiller les travaux de la piscine. C'est des travaux un peu techniciens. Je suis obligé de monter à l'interco.
Donc, vous plaidez pour des regroupements plus poussés ?
Non. On va laisser les communes, mais on donnera qui seront des communes comme des mairies annexes et que le pouvoir, entre guillemets, la compétence générale sera à l'interco, tout au moins au niveau rural. Enfin, moi, c'est mon avis.
Désaccord radical, et je trouve qu'en plus, vous avez fait l'argument contre. Parce que vous êtes pas représentant, c'est pas du tout démocratique comme système. C'est-à-dire, mais non, les gens, ils choisissent leur maire, ils choisissent pas l'interco. Il y a un moment, Moi, j'ai pas de sujet avec le fait que ce soit regroupé. Dans ces cas-là, il y a sans doute un problème de taille de commune. On a aujourd'hui un système qui est devenu totalement illisible et effrayant. Je vais faire de la politique nationale deux secondes. Il se trouve que j'ai contribué, ça n'a pas été l'élection la plus fructueuse qui soit, mais j'ai contribué à préparer l'élection de Valérie Pécresse. Ça n'a pas très bien marché. Et nous travaillons, c'est un autre sujet. Je parle de la présidentielle, je ne parle pas à la région. Et nous avons travaillé avec un sénateur des Pyrénées-Atlantiques et on avait proposé de faire une lettre à tous les maires. Et on avait le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, donc plutôt vraiment secteur rural, et moi le maire d'une ville de banlieue de 50 000 habitants, la même formule. Chaque fois qu'un administré va devant le maire et que le maire répond « il faut que je demande à l'interco », c'est la démocratie qui recule. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe à ça. C'est-à-dire que le dernier truc qui reste de sentiment démocratique dans notre pays, la démocratie nationale, elle est très abîmée. C'est la démocratie locale. Par ce système qui est devenu illisible pour les gens, on est en train d'abîmer le dernier échelon qui marche encore. Ce qui est décisif, c'est qu'à un moment, chacune des citoyens, citoyennes françaises est à proximité, accessible, à portée de discussion, quelqu'un qu'il choisit, qu'il peut rencontrer et qui a un pouvoir direct d'action. C'est ça la clé du fonctionnement démocratique. Et avec cette dinguerie du fonctionnement intercommunal, on a profondément détérioré ça.
Pardon, j'avais une question sur qui rejoint cette question du millefeuille là, alors non pas pour l'aborder sous l'angle effectivement où on le fait habituellement où tout le monde s'en plaint, les élus parce qu'ils sont déresponsabilisés, les administrés parce qu'ils ont l'impression que dès qu'on pose une question un peu délicate, le maire dit, eh ben non, ça c'est effectivement un tel ou un tel, et voilà. Ma question, elle est plus, alors elle est vers toi, Nicolas, sur quelque chose que tu abordes dans ton excellent bouquin, à qui je recommande vraiment à tout le monde la lecture, c'est édifiant sur la manière, enfin les questions qui se posent à un maire. Tu as un passage sur les gilets jaunes, pour lequel l'explication qui a le plus communément été apportée, c'est la perte des services publics, ou plutôt des communs au sens large, parce que les services peuvent être publics ou privés, mais les services de proximité, qui concernent aussi bien les commerces que les associations, que les services réellement conduits par le public. Et il me semble que, je ne crois pas trahir ta pensée, tu expliques que finalement, si on mettait dans les mains des maires le soin d'apporter finalement ces communs, que ce soit de faire venir des boutiques, de faire venir un médecin, d'avoir un service de la poste qui fonctionne encore, d'avoir donc ces services sociaux qui fonctionnent encore, eh bien, on n'en serait pas là. Et que effectivement, si on revenait en arrière sur cette déresponsabilisation à travers les domaines que l'on attribue à ces différents échelons du millefeuille, eh bien, on pourrait faire un grand pas en avant sur les services dans les...
On ferait des supermaires.
Ben, ce serait peut-être, oui, ou simplement qu'ils retrouveraient des compétences qu'ils ont peut-être eues à un moment et qui se sont diluées dans un millefeuille. Voilà.
Je fais très court, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, trois formules. D'abord, il n'y a pas de hasard de mots. Le bien commun, ça se fabrique dans les communes. Et franchement, c'est important les mots. La commune, c'est l'endroit de l'espace commun. Et que ce soit un petit village où on se ressent comme ayant un destin commun ou une plus grande ville, l'identité communale, elle est extrêmement forte. Et je pense que là, de Paris à des villages de 100 habitants, cette idée qu'on a le sentiment d'appartenir à une commune en commun, si j'ose dire, il est très fort. Et si je reviens à la question démocratique, cette question de ressenti, d'affectio societatis, il faudrait parler d'affectio communaliste, je ne sais pas comment on devrait dire, je pense qu'elle est extrêmement importante. Et quand on joue avec ça, on déconne. Deuxième sujet, je vais prendre un exemple qui n'est pas celui du village, le rapport Borloo, qui a fait, peut-être qu'Emmanuel Macron a peut-être écarté un peu vite. Il y avait une quinzaine de propositions. J'étais d'accord avec à peu près tout. Il y en avait une qui était de donner les moyens aux communes. En fait, c'est presque la seule qui compte. Parce que sur ces questions de politique de la ville que vous évoquiez tout à l'heure, fondamentalement, quand vous êtes maire d'une commune où il y a un quartier politique de la ville, si vous avez les moyens d'agir, vous le prenez. Alors, oui, après, quand il y a des sujets hors normes, je menais un programme de renouvellement urbain avec des démolitions. Là, il y a besoin de l'État. Et je suis d'accord, il y a besoin de l'ANRU, truc comme ça. Mais pour gérer les associations, machin, mais qu'est-ce que je m'emmerde à discuter avec le délégué du préfet qui me dit qu'il faut faire différemment, etc. On perd un temps de dingue, alors que si on a les moyens, on va le faire. Et nous, on fera pas du clientélisme. Et si jamais il y en a qui font, eh ben, ils se feront dégager. Et ça marchera très bien comme ça. Et puis, dernier truc, c'est une formule que j'adore, qui est d'un député de la Somme, il y a très longtemps, du métier Jules Barny, qui est que la commune, c'est la petite république dans la grande. Je pense que c'est une belle formule.
Oui, deux questions, s'il vous plaît. Une question qui s'adresse aux deux élus qui sont là. Combien de temps consacrez-vous à votre activité municipale chaque semaine ?
J'en sais strictement rien, mais sûrement pas 35 heures. C'est bien, bien au-delà. Parce que c'est le week-end. C'est le soir, c'est souvent, je n'ai aucune idée, hein, mais vraiment beaucoup de temps. Hein. C'est vraiment un temps plein, je peux dire. Mais un temps plein qui est au-delà des 35 heures. Enfin, à la ville de Paris, c'est quand même 32 heures pour les fonctionnaires.
Moi, réponse peut-être un tout petit peu différente. Quand j'étais adjoint, je dirais que j'y passais l'équivalent de deux journées de travail par semaine, une journée pleine, j'avais pris un 80% pour être une journée à la mairie, et puis des soirées, des bouts de week-end. Là maintenant, en étant maire, je suis à plein temps, donc oui, et puis après, c'est un temps. Le seul truc, c'est qu'on a les vacances. Moi, je dis parfois en plaisantant, j'ai un rythme de prof. C'est-à-dire que pendant les vacances scolaires, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Pour le reste, c'est effectivement... Et les mois les pires qui sont septembre, décembre, mai et juin, c'est très clairement zéro soir du mois à la maison. Mais zéro.
Merci. Et deuxième question, est-ce qu'on voit souvent des fusions de communes à droite à gauche quand on circule à travers la France ? C'est-à-dire que deux ou trois communes se réunissent pour faire plus qu'une seule commune. Est-ce que, grosso modo, il y a une tendance à la diminution du nombre de communes en France ?
4%. De 2001 à 2020, 4%. On est passé d'un peu plus de 36 000 communes à 35 000. Et la tendance était surtout 2014, où il y a eu beaucoup de choses, mais maintenant, c'est difficile.
Il y a encore des incitations au regroupement ou pas ?
Il y a des incitations, mais tout dépend de le niveau. Il faut vraiment qu'on fasse qu'on se rende vraiment compte que une ville de 50 000 habitants et une ville de 100 et un village de 100 habitants, c'est pas la même chose. Donc les villages de 100 habitants, ils adorent l'intercommunalité. Là, vous avez dit c'est difficile. Ah, on voit nos trucs. Ils disent, nous, depuis qu'on a l'intercommunalité, que j'ai plus à gérer les poubelles. Avant, je devais faire quelqu'un, trouver ceci, cela et tout. Nos enquêtes montrent que l'intercommunalité, non, ça y est, ça a été intégré. Et pour beaucoup de communes, c'est quelque chose qui est normal.
Oui, mais sauf que on revient au problème de démocratique évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on élit des maires, pardon, et après les compétences sont regroupées alors qu'on n'élit pas.
On rentre un peu dans la technique. En fait, il y a deux systèmes intercommunaux. Il y en a un qui existe depuis très longtemps et qui marche, qui sont les syndicats intercommunaux. Ça fait très 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 longtemps que les communes de 100 habitants ne gèrent plus les poubelles directement. Elles sont dans un syndicat intercommunal spécialisé là-dessus. Et ça marche parce qu'en fait, c'est une construction bottom-up en bon français d'un accord. Et ça marche. Les gens se mettent d'accord et ça marche plus longtemps. Et il y a le deuxième qui est cette espèce d'intercommunalité politique à compétence générale, disposant de moyens propres qui a été imposé. Et alors, je ne partage pas. Je pense même, alors pardon, je vais encore faire la politique nationale. Aujourd'hui, quelque chose qui est pour moi l'un des dangers majeurs, vous avez compris le bouquin que j'ai écrit, je ne suis pas un grand fan de l'extrême droite. Aujourd'hui, le Rassemblement National fait campagne auprès de tous les petits maires contre l'interco et ça marche super bien. Super bien. Les maires détestent l'interco de manière générale. Il n'y a que les présidents d'interco qui aiment l'interco. Parce que, alors là, vraiment, je conteste et je commence à en avoir vu suffisamment pour ça. Bien sûr qu'après, il y a des besoins techniques. Mais vraiment, je conteste radicalement ce point de vue.
Non, nous, nos enquêtes montrent que de plus en plus les maires voilà, apprécient les intercos et toutes sortes. Même ceux qui avaient... je vais prendre un exemple. Un maire de 3500 habitants, c'est déjà une commune qui est assez... Il dit, moi, depuis que j'ai l'interco, je suis l'homme le plus heureux du monde. Avant, je devais gérer moi-même les poubelles. Donc là, il les gérait lui-même, les poubelles. Et il disait... Oui, oui, à 3500, mais c'est ce qu'il a dit, lui. C'est ce qu'il disait. Il disait, voilà, ben moi, quand le camion était en panne, ben c'était à quelqu'un de, c'était à moi de le gérer. Quand il se levait pas, c'était pas à moi de le gérer. Il dit maintenant, tout a été mis ailleurs et il était, voilà. Et puis les enquêtes, quand on pose au maire, quand on pose la question au maire, dans une certaine tranche de population, c'est fini. Au début, oui, il y a 10 ans, ça critiquait beaucoup les intercommunalités. Maintenant.
Bon, alors on fera tous un sondage auprès de nos élus pour leur poser cette question.
On prend deux questions, on essaye.
Justement, dans là, un petit peu la continuité de l'interco et la problématique, il y a maintenant le recours, ben, c'est passé justement jusqu'en 2014, aux communes, à ce qu'on appelle les communes, pas les communes nouvelles, mais la fusion de communes. Plusieurs communes qui se fusionnent entre elles. Est-ce qu'il n'est pas possible, bon, c'est vrai que ça va mettre du temps, mais de penser justement sur le plan de l'échelon local à redéfinir et pourquoi pas un jour peser le pour et le contre interco commune nouvelle.
Moi, j'ai l'impression qu'avec les interco, on a essayé de résoudre un problème qui ne se posait pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça marchait plutôt pas mal. Dès qu'il y avait un sujet technique, l'assainissement, les ordures ménagères, on faisait des syndicats intercommunaux qui, bon an, mal an, marchaient. Ah, il pouvait y en avoir qui ne marchaient pas, mais comme n'importe quelle commune peut ne pas marcher. Mais qui était un système qui était assez fonctionnel, assez efficace. Aujourd'hui, on a fait un truc et il y a une formule que tous les technos vous disent. Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a autant de communes en France que dans tout le reste de l'Europe, où il y a la moitié des communes. Okay, vous vous rendez compte, c'est pas possible. So what, où est le problème? En fait, ça fait une démocratie locale vivante. Il y a 1% du corps électeur des Français qui sont élus locaux. Je trouve que c'est plutôt pas plus mal. Les maires, ils se démerdent. Les maires dans les petites communes, ils sont quasi bénévoles. Ils font des trucs vachement bien. Je suis pas sûr qu'il y avait un vrai problème. Ce qui est vrai, pour prendre quand même un peu de distance, ce qui est vrai, c'est que pour porter un grand projet de développement, les communes, parfois, la taille marche pas. Enfin, il n'y a pas des centaines de communes de 100 habitants qui ont besoin de porter un grand projet de développement. Donc c'est peut-être pas hyper grave. Franchement, si moi j'ai mon premier boulot, vous l'avez dit, j'étais à la DDE chargé d'ingénierie publique pour les communes de la Somme. Dans la Somme, à l'époque, il y a 780 communes. Il y avait 780 communes et la troisième plus grosse commune après Amiens et Abbeville, ça devait être Péronne au Montdidier, c'était moins de 10 000 habitants. Il y avait 4 ou 5 communes dans gros 10 000 habitants. C'est sûr qu'après, vous voyez, 780, on est déjà en dessous de 10 000 à la troisième, vous voyez. Donc c'est sûr qu'il y avait des communes, c'était pas grand-chose. Où était le problème? Où était le problème? Et en fait, le truc, c'est qu'on a simplement rajouté un machin qui complique les choses sans rien simplifier. Donc je vois vraiment pas ce qu'on a fait.
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais aborder la question des dérèglements climatiques. Et on a vu que là, dans les catastrophes récentes, mais qui d'ailleurs se multiplient depuis plusieurs années, les maires et les communes sont aux premières loges pour faire face à ces événements extrêmes. Est-ce que les maires sont préparés à préparer justement, sont formés à préparer leur commune, leur municipalité à s'adapter à ces catastrophes à répétition? Alors, il y a aussi la question de certaines communes qui sont... par exemple, qui connaissent des inondations à répétition, en deux ans, un an, il y a 3 inondations successives. Donc, qu'est-ce que vont faire les maires? Est-ce que les assurances, les compagnies d'assurance vont continuer à assurer les maisons qui sont dans des zones très inondables? Ou comment est-ce que les maires vont prendre en charge ce problème-là, les sécheresses, les inondations? Et on dit qu'il y a 10 millions de maisons en France qui sont fissurées, qui sont menacées de fissures. Et donc, comment faire face?
Alors, on va demander à Alexis Beaujard. Est-ce que c'est des problématiques sur lesquelles vous êtes plus sollicité maintenant?
Alors, Oui, mais juste avant de répondre sur ce point-là, en fait, votre question même est la bonne illustration du fait qu'on attend aussi de la mairie d'être le croisement entre tous les acteurs, d'être à la fois le défenseur des citoyens auprès des assurances, d'être aussi le relais local de toute la coordination qui peut avoir lieu sur une région incendiée, une région inondée, etc., en lien avec les services de la préfecture, qui ont quand même plutôt cette compétence de gestion de crise. Et alors pour ça, en effet, il y a un certain nombre de mesures qui aident les mairies à s'équiper, à se renforcer pour gérer ces situations, même si, encore une fois, elles ne sont pas les seules à apporter des réponses, notamment face aux crises liées au dérèglement climatique. Mais il y a notamment, voilà, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est les plans de continuité et de sauvegarde, enfin les plans intercommunaux, alors je vais peut-être lever quelques sourcils, les plans intercommunaux de continuité et de sauvegarde qui sont un dispositif vraiment sur lequel ce sont les mairies, enfin les communalités, mais regroupées en intercommunalités, qui sont vraiment aux premières loges de scénario 1, qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on contacte, où est-ce qu'on réfugie les gens, etc. Et ça, c'est une pratique qui se développe vachement, que mon cabinet accompagne notamment auprès de communes, mais qui se développe vachement et en fait qui sont un exemple concret de prise de conscience quelque part des risques adaptés très localement, puisqu'on ne pourrait pas avoir cette démarche nationalement. Un risque, c'est toujours ancré dans une localité.
Alors, en tant qu'élue parisienne, évidemment, je n'ai pas la mer devant moi, on n'a pas le même problème, mais on a la Seine. Et donc, effectivement, si la Seine déborde, on attend la crue centennale depuis déjà quelques années, avec des exercices, avec tout un processus qui est prévu, puisque, en fait, notre arrondissement du 15e arrondissement serait inondé sur les deux tiers, c'est-à-dire jusqu'à la mairie qui serait les pieds dans l'eau, avec forcément plus de transport, plus d'électricité, plus de téléphone portable, plus tout ça, etc. Et donc, il y a vraiment des processus, des protocoles qui sont prévus, qui sont revus chaque année, qui sont testés aussi pour avoir une bonne réaction, enfin essayer d'avoir une bonne réaction si la crue centennale que nous attendons ne revient pas, ce qu'on souhaite quand même.
Et c'est vrai que, enfin, je repensais aux chiffres, mais j'ai entendu que aujourd'hui, quand même, cette demande d'adaptation au changement climatique était vraiment en forte augmentation là depuis cette élection-là et que le thème revient.
Rénovation des immeubles aussi, en particulier des immeubles sociaux qui ne sont pas toujours très bonne qualité. Donc il y a un gros travail qui est fait, c'est très compliqué, c'est très long et c'est très cher.
Le truc sur le sujet général du changement climatique, honnêtement sur les crues, je n'ai pas un avis très arrêté. Sur le sujet général du changement climatique, le truc qui a changé pour moi dans le débat public par rapport à il y a 6 ans, c'est qu'il y a 6 ans, on était vraiment sur le côté engagement citoyen sur l'atténuation. On devait montrer qu'on était bons élèves sur le fait qu'on allait moins émettre. Là, aujourd'hui, le sujet de tout le monde, c'est l'adaptation. Après, sur toutes ces questions, on va dire écologiques au sens le plus large du terme, je veux essayer vraiment de pas tomber non plus dans le communalisme excessif. Il y a un certain nombre de sujets, typiquement des réglementations thermiques, les incitations sur les voitures, les politiques, qui sont clairement des politiques nationales ou régionales. Enfin, je veux dire, mon impact sur le RERB... Enfin, je veux dire, heureusement que c'est pas chacun des maires individuellement qui gère le RERB dans sa commune, parce que déjà que ça fonctionne pas quand même parfaitement bien, là, ça fonctionnerait vraiment très mal. Donc, évidemment qu'il y a des questions d'échelle pertinentes pour les sujets. Mais pour les questions de proximité, notamment, je prends un exemple hyper concret. Il y a 9 ans, on a réaménagé une cour d'école à Massy avec l'unanimité générale, la mienne. J'étais pas encore maire, j'étais adjoint d'affaires scolaires. Les enseignants, les parents d'élèves, on a dégagé tous les espaces un peu où il y avait de l'herbe, etc., parce que ça mettait de la boue, ça salissait tout. Bon, 5 ans après, on est maintenant en train de prendre toutes les cours une par une et de les végétaliser pour remettre du... Je pense qu'on a tous pris... Il y a une prise de conscience du sujet massive. Et aujourd'hui, typiquement, remettre, pour faire simple, du vert, mais voilà, réel, hein, pas du décorum. Remettre vraiment des espaces de nature, des espaces verts au cœur de la ville beaucoup plus fort qu'avant, c'est un changement qu'on a tous fait et sur lequel on a une énorme attente des gens. Et ce que vous disiez à juste titre, il y a une question sur les bâtiments. Il y a 10 ans, on était tous en train de se dire comment est-ce qu'on isole les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie pour être chauffés. La question reste... Aujourd'hui, la question centrale, typiquement pour les écoles, c'est comment est-ce que je gère le confort d'été pour que quand il y a des canicules, on n'ait plus le sujet. Là-dessus, moi, je pense que l'échelon communal, alors, ça dépend sûrement des tailles de communes, hein, mais l'échelon communal, il reste assez pertinent. Il y a besoin d'une expertise qui est par ailleurs. En tout cas, je veux dire, je vous dis, j'ai commencé ma carrière en DDE, je vous assure, on est plus efficace en commune qu'au niveau de l'État. Ça, j'ai aucun doute.
Est-ce qu'il y a encore des désirs de questions? Et si pardon, j'ai pas vu. Non, c'est bon. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, je peux remercier du fond du cœur nos intervenants et qui ont même débattu. Et ça, on aime bien aussi quand il y a comme ça des échanges de points de vue sur une question de toute façon, on savait, complexe. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Et puis, je laisse la parole à Louis Lourme, le recteur des facultés, qui a un petit mot à vous dire de conclusion.
Simple. Alors, conclusion de la soirée simplement, pas de tout ce qui s'est dit. Je remercie bien sûr les intervenants. C'est formel, mais c'est très vrai. C'est précieux pour nous, mois après mois, de pouvoir se confronter à des questions d'éthique publique. Je remercie aussi les partenaires, la revue Études et le journal La Croix, qui portent avec nous ces soirées. Je peux d'ores et déjà donner alors la date seulement du prochain mardi d'éthique publique, parce que l'actualité étant ce qu'elle est, on n'est pas tout à fait sûr du thème qu'on avait pourtant coché ensemble avec l'équipe. Voilà, la date du prochain mardi d'éthique publique, c'est le 7 avril. Mardi 7 avril, sur le format que vous connaissez, des intervenants et puis ensuite des échanges avec la salle. Je signale aussi que si vous voulez soutenir les mardis d'éthique publique, vous pouvez le faire à la sortie, il y a des urnes à cet effet, donc n'hésitez pas, ça permet de continuer à assurer cette proposition. Voilà, merci à nouveau à tous les participants et à vous-même. Bonne soirée à tout le monde.
Oui, merci de nous avoir fait partager votre passion pour l'échelon municipal.
Je peux me permettre d'ajouter un petit mot, c'est que dans les mairies, il se passe quelque chose qui est très important, c'est les trois événements de votre vie. La naissance, où vous venez déclarer, le mariage, où c'est un bon souvenir, et malheureusement aussi les décès. C'est quand même trois événements, c'est en mairie que ça se passe, c'est quand même très important.